you know what?
Suite et fin déjà d'une semaine ou d'un après-midi passé avec l'historien, conteur, archéologue et merveilleux Paul Venn autour de son œuvre, c'est-à-dire de la Rome antique, dont Paul Venn maîtrise les dédales à la façon d'un architecte. Après la constitution de l'Empire, la méthode de l'historien, l'examen de la vie quotidienne, le pain, le cirque et les gladiateurs, voici venu le temps de ce que d'autres appellent décadence, mais que Paul Venn désigne simplement et audacieusement comme un accident de parcours. Paul Venn, vous avez parlé du 4e siècle de l'Empire romain, dans une conversation précédente, comme d'un théâtre hystérique. Ce qui d'ailleurs correspond assez à l'idée qu'on peut en avoir. On se représente bien souvent les Romains de la fin, j'allais dire des dégénérés, mais en tout cas des gens qui faisaient la fête tout le temps et qui se livraient à ce qu'on a appelé communément, qui vivaient ce qu'on a appelé communément, ensuite rétrospectivement, la décadence. Et pourtant, l'idée de décadence est une idée avec laquelle vous n'êtes pas en accord. C'est-à-dire que l'interprétation que vous donnez de la fin de l'Empire romain n'est certainement pas celle qui consiste à dire que, en somme, ils se sont auto-sabordés comme un phénomène de décadence propre à toute société, comme une forme d'entropie.
Oh non, leur hystérie était plutôt une hystérie de puissance, de pouvoir et de cruauté.
Mais est-ce que ça n'est pas ça, la décadence?
Évidemment, ce n'est pas tout à fait l'état souhaitable, mais l'empire du 4e siècle est un empire tout à fait puissant et qui n'a péri à l'ouest, dans l'empire d'Occident, que par un accident.
Alors, comment, d'où vient cet accident de l'Occident, Paul Venn, qui a valu à l'Empire de disparaître? Comment cet empire, qui était donc à l'apogée, est-il tombé? Et d'ailleurs, quand est-il tombé?
Selon votre goût, en 404 ou en 476.
Pourquoi 4?
Parce que c'est le moment où des tribus germaniques, d'ailleurs très évoluées, pénètrent dans l'Empire. Bon, l'Empire romain, dans les années 300, est reconstitué par des empereurs extrêmement efficaces. De 300 à 400, l'Empire romain est une construction très solide, avec une très puissante armée.
Presque trop nombreuse d'ailleurs, non? Pléthorique.
Oui, et puis incapable de faire face à la menace barbare, autant que l'armée américaine, avec sa toute puissance, a une guérilla.
Mais à ceci près quand même que les barbares dont on parle étaient bien souvent intégrés à l'Empire romain. On les présente comme des barbares, mais contrairement à ce que les Grecs désignaient comme les barbares en question faisaient partie de l'Empire.
Il y a aux frontières de l'Empire des peuples tout à fait évolués, les fouilles l'ont prouvé en Crimée, christianisés, bon, d'un christianisme qui n'est pas le bon, il y a des hérésies, mais enfin peu importe, et qui savent tout de l'Empire romain et qui baragouinent de toute façon le latin, et qui savent très bien de quoi il s'agit. Ils rêvent, comme tout le monde, de se mettre dans une région riche où ils auront des terres, à savoir l'Empire romain, et ils rêvent de modernité, comme l'ont toujours rêvé tous les peuples, y compris à notre époque, même quand ils sont contre la civilisation occidentale. Alors, seulement, ce qui s'est passé, c'est un double accident. L'Empire romain occupe la superficie de aujourd'hui 23 ou 24 États modernes. C'est gigantesque, mais ça a un trou énorme au milieu qui s'appelle la Méditerranée. Résultat, une étendue de frontières considérable. Alors, si vous avez des barbares, appelons-le des barbares, les Goths, et puis n'en parlons plus, ils ne méritent pas qu'on les appelle barbares. Si vous avez des Goths qui entrent d'un côté et qui en même temps entrent de l'autre, vous êtes débordé par la longueur des frontières à défendre, même avec une armée énorme. D'autant plus que cette armée est une armée lourde. C'est une armée avec de la cavalerie qui ne peut agir que 3 ou 4 mois par an, pendant qu'il y a de l'herbe. Et oui, c'est comme d'avoir un seul porte-avions au lieu de 2. On peut s'en servir que 6 mois sur 12. Alors, la cavalerie ne peut pas servir quand ce n'est pas l'été. L'infanterie est lourde parce que elle doit être suivie par l'intendance, et l'intendance a de la peine à suivre. Et vous avez en présence de vous des groupes de 30 000 hommes accompagnés de leur bétail avec femmes et enfants qui se déplacent dans l'Empire comme ils veulent, que vous n'arrivez pas à suivre. Alors à la fin, on en a marre, on leur dit installez-vous dans la région de Bordeaux, installez-vous dans la région de Toulouse, et qu'on en finisse. Et puis soyez de fidèles sujets de l'Empire, ce qui ne manque pas de promettre, et d'ailleurs ils se sentent promus.
Ce que vous racontez là, Paul Venn, vous le décrivez en détail, dans ses moindres détails, au chapitre 12 de l'Empire gréco-romain, un chapitre qui est consacré à la prise de Rome en 410,
ah oui,
et aux grandes invasions. Dans ce chapitre notamment, vous posez que le drame de 410, pour mémoire, la mise à sac de la ville de Rome pendant 3 jours par Alaric.
Oui.
L'abominable Alaric, celui qu'on a présenté comme le sanguinaire par excellence, etc. Qui était romain d'ailleurs. Qui était parfaitement romain. Mais vous dites, le drame de 410, la mise à sac de Rome en 410, n'est pas une coupure. C'est un épisode dramatique, ça n'est pas une invasion venue du dehors, mais une rébellion à l'intérieur de l'Empire où les Goths, donc, étaient installés depuis 40 ou 80 ans.
Oui, cet épisode de guerre civile. Vous remplissez la Légion étrangère. Un beau jour, la Légion étrangère se révolte et saccage Paris. Bon, c'est un épisode de guerre civile. C'est pas une invasion... par un pape étranger. Alaric avait déjà...
L'idée qu'on en a en général, c'est que les frontières romaines ont faibli et qu'ils ont été envahis. En somme, les digues ont cédé devant les peuples étrangers.
Les digues ont cédé devant des peuples qui rentraient dans l'Empire pour trouver des terres et que l'armée n'arrivait pas à poursuivre parce qu'elle n'était pas adaptée.
Et qu'ils ont, à ce moment-là, tenté d'intégrer.
Donc, on adapte tant qu'à faire, puisque ces gens-là sont prêts à se battre, on les prend. On utilise les barbares pour lutter contre les barbares. Les Francs se sont fait tuer à défendre à un certain moment les frontières de la Gaule contre d'autres tribus germaniques qui voulaient les envahir. Ils ne demandent qu'à entrer en masse dans la Légion étrangère, ces gens-là, et à être payés en terre. C'est leur souhait. Alaric l'a fait, il a été nommé haut fonctionnaire, il a eu les plus hautes fonctions dans l'Empire. Il aurait pu très bien épouser une fille de l'empereur comme l'a fait Stilicone. Son ennemi.
Oui, c'était son adversaire, Stilicone. Il faut le rappeler.
C'est un vandale, Stilicone. Stilicone est un vandale, fidèle sujet de l'Empire romain, chrétien, lettré et tout. Et ayant épousé une fille de l'empereur.
Alors, pourquoi la mise à sac de Rome par Alaric? Comment ça s'est fait?
Alaric a dit, l'empereur romain est un empereur faible qui vit à Ravenne, protégé par les marais qui entouraient à cette époque, plus encore qu'aujourd'hui, la ville. Alaric ne peut pas devenir lui-même empereur romain, pas plus que Stilicone, parce que ni un barbare, ni un grec ne peut devenir empereur romain. Il faut être romain de Rome, ou au moins romain d'Afrique du Nord, de Libye.
Oui, ce qui veut dire que, pour le rappeler, donc, les barbares ou les grecs peuvent accéder aux plus hautes fonctions, sauf qu'ils ne peuvent pas pratiquer le sport favori de l'époque, qui est de devenir empereur à la place de l'empereur.
Ils ne peuvent pas devenir empereur. Alors, depuis cette époque, ce qui se passait, c'est que l'empereur était romain et faible et avait derrière lui le vrai empereur qui était un germain, qui était lui intelligent, politiquement doué et qui dirigeait ses compatriotes germains. Il y avait ce partage. Alaric voulait cela, il voulait établir à Rome contre l'empereur de Ravenne un contre-empereur, un nouvel empereur dévoué à lui, derrière lequel il exercerait le pouvoir impérial. Il n'y a rien à faire, Rome n'a pas cédé, alors il a dit « je vous préviens ». Si vous ne cédez pas, je fais le sac de Rome. Attention, ce sera pour vous punir, mais la punition, c'est comme une sentence judiciaire, on est condamné à 3 mois ou à 10 ans de prison.
Là, c'est 3 jours.
Ce sera 3 jours
et
de
pas d'incendie.
Pas plus. La ville ne sera pas incendiée, il y aura 3 jours d'incendie et la population pourra se réfugier dans les églises. C'est une sentence judiciaire et c'est un chantage. Comme l'empereur Honorius n'a pas cédé au chantage, Rome a été saccagée pendant 3 jours, comme on est dit, après quoi les barbares sont repartis en emportant des bonnes sœurs, des trésors d'église, tout ce qu'on veut. Et au terme du saccage, on a fini par les situer dans une région riche, qui était la région de Toulouse et Bordeaux. La région de Toulouse et Bordeaux était si riche que les paysans n'y vivaient pas en haillons, nous dit un auteur de l'époque.
Mais en même temps, on se représente souvent les tribus d'Alaric, enfin les hordes censées suivre Alaric, comme des nomades qui sillonnent d'ailleurs dans une totale impunité l'ensemble de l'Empire. Donc cette représentation-là est juste et qui massacre à tour de bras.
Alors, évidemment, vous pensez bien qu'une foule déchaînée et qui a des armes, quelquefois, excède un peu. Par exemple, les Vandales en Afrique ont vraiment vandalisé. C'est les atrocités que commet à toute époque toute troupe et qu'on aurait tort de confondre avec un génocide. Parce qu'un génocide, il faut une idéologie.
Je vous donne celui-ci, le plus noble de ceux qui survivent, le fils aîné de cette reine dans la douleur.
Frère Romain, arrêtez! Conquérant magnanime, victorieux Titus, ressens les larmes que je verse. N'est-ce pas assez qu'on nous mène à Rome, embellir ton retour et tes triomphes? Captif entre tes mains et sous ton joug romain, faut-il que mes fils soient égorgés dans les rues pour avoir bravement servi leur patrie? Oh, si combattre pour le roi, pour le bien commun, fut vertu chez tes fils, ce l'est aussi chez les miens. Andronicus, n'entache pas de sang ton sépulcre. Veux-tu t'approcher de la nature des dieux? Deviens leur semblable alors par la clémence, la douce clémence et le vrai signe de la noblesse. Trois fois noble Titus, épargne mon premier-né.
Résignez-vous, madame, et pardonnez-moi, voici leurs frères, à ceux-là que vos Goths ont vus vivants et morts. Et pour leurs frères égorgés, religieusement ils exigent un sacrifice. Votre fils est marqué pour victime, il doit mourir, apaisant l'ombre gémissante des disparus. Reposez, mes fils, dans l'honneur et la paix.
Alors, revenons un tout petit peu en arrière. Hein. Le sac de Rome, la mise à sac de Rome,
oui.
C'est 410. Hein.
Oui.
Vous faites démarrer la période, en fait, dont ce moment serait le point culminant, à 376. Vous la faites durer sur 100 ans, à peu près. Pourquoi cette datation?
En 376, des Goths veulent entrer en masse dans l'Empire romain parce que ils sont en train d'être soit chassés, soit dominés par les Huns. Et on leur refuse l'entrée dans l'Empire romain, enfin, que faire devant cette masse de fuyards qui cherchent refuge dans l'Empire. Or, il se trouve que par suite d'une manœuvre maladroite, les Romains sont complètement écrabouillés à la défaite d'Andrinople par ces Goths. Ça a été la plus grosse défaite qu'ils avaient subie depuis 500 ans, depuis Hannibal.
376, c'est donc les Goths qui entrent dans Rome. 378, c'est la défaite d'Andrinople, dont vous nous parliez tout à l'heure. Donc une des plus cuisantes défaites de l'histoire romaine depuis Hannibal. Et 382, c'est le moment où les Romains laissent les tribus s'installer dans ce qui deviendra plus tard la Bulgarie.
Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement.
Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que le ver est dans le fruit?
Oui, le ver est dans le fruit en ce sens que vous ne pouvez pas faire la chasse aux lièvres avec de gros sabots. Vous ne pouvez pas, avec une armée surpuissante, vous battre contre des gens qui se déplacent rapidement avec leur propre nourriture, alors que vous, il faut que l'infanterie suive. De même qu'une armée comme l'armée américaine ne peut pas lutter contre une guérilla ou l'armée française en Algérie.
Quelques années plus tard, 395, donc à peu près 10-15 ans après l'installation des Goths en Bulgarie, enfin dans ce qui sera la Bulgarie, se forment à ce moment-là, sous la conduite d'Alaric, des bandes de guerriers. Revenons encore à la personne d'Alaric. Comment cet homme qui était une huile à Rome, qui était dans les petits papiers de l'Empire finalement, et qui était un homme qui avait de hautes fonctions dans l'Empire, comment cet homme en est-il venu à rassembler sur son nom des troupes de guerriers devenus nomades qui ont ensuite massacré autour d'eux?
Je suppose qu'Alaric est un aventurier très doué, et que ceux qui l'ont suivi sentaient comme étant doués, et qui avait un grand dessein, c'était de se faire empereur à Rome. Ils en rêvent tous. À Palmyre, la reine Zénobie ne songeait pas du tout à constituer un empire d'Orient. Elle voulait bel et bien devenir ou rendre son fils empereur à Rome même. Ils en rêvent tous. La preuve, c'est que la prise de Rome en 410 est un chantage exercé pour avoir le pouvoir impérial dans une guerre civile. Ce n'est pas la prise de Rome par des barbares.
Alors,
Alaric doit être un type qui voulait devenir empereur, je suppose.
Donc il a joué l'Orient contre l'Occident, en fait.
Oui, puisqu'à cette époque, l'Orient et l'Occident s'entendent très mal. Oui, vous avez raison. Il y avait des dissensions au sujet de la péninsule balkanique.
Rappelons quand même pour mémoire, de quand date finalement cette différence entre l'Orient et l'Occident?
395, Enfin, elle existait depuis toujours, mais en 395, il y a un empereur en Orient, un empereur en Occident, et tous deux se battent pour savoir où passera, dans l'ex-Yougoslavie, la frontière.
Mais est-ce que Alaric, à ce moment-là, n'est pas l'employé, finalement, de l'empereur d'Orient ?
Il est l'employé de l'empereur d'Orient, mais tant qu'à faire, il occupe un poste très élevé dans la hiérarchie romaine. Je pense qu'il était le 12e personnage de l'Empire, l'empereur étant le premier. Il veut maintenant devenir le vrai premier, c'est-à-dire gouverner derrière l'ombre de l'empereur d'Occident. Alors, le chantage, c'est « sac de Rome si vous ne pliez pas ».
Ça rappelle Salammbô, ce que vous dites. Vous vous souvenez du début de Salammbô ? On est à Carthage, là, pour
oui,
le coup.
Oui, très bien.
C'est une autre atmosphère, mais où les esclaves, de façon presque surnaturelle d'ailleurs, dînent, ripaillent, ils font la fête dans Carthage et puis se laissent aller et en viennent à vandaliser finalement la ville et progressivement...
Couper les trompes des éléphants,
ils s'en prennent aux femmes,
et
ils
cassent... Et ça, c'est des vandales.
Vandalisent finalement la ville.
Une troupe déchaînée et victorieuse qui n'a rien en face d'elle et qui trouve tout à prendre, il est évident que...
Mais ce qui est extraordinaire dans Salammbô, dans le début du roman de Flaubert, c'est... Alors peut-être que c'est un pur effet littéraire, mais peut-être aussi que Flaubert touche du doigt quelque chose à quoi une lecture systématique interdit d'accéder. C'est le sentiment qu'on a que insensiblement... On passe du moment où on fait bonne chère au moment de la violence. Et qu'en somme, il y a quelque chose d'inexplicable dans ce passage, dans cette métamorphose du vandale allié en vandale tout court. Je veux dire, indépendamment des considérations politiques d'Alaric,
oui.
etc. Est-ce que ça ne correspondait pas aussi...
Ça correspond certainement à l'attitude de ses troupes.
Qui est chef dans ces cas-là ? Est-ce que c'est Alaric ? Est-ce que ce sont les troupes ? Qui commande quand on a une armée de vandales comme ça ?
On ne commande qu'à condition de les laisser faire. Quand les Français sont entrés en Allemagne dans l'hiver 44-45 avec des troupes ex-coloniales, eh bien, il fallait laisser aux troupes 24 heures avec le droit de voler et de violer. Je connais le récit par des amis allemandes. Le lendemain, il y avait la queue chez les médecins allemands par les femmes qui avaient été violées dans la nuit, et tous les soldats avaient une série de montres à leurs bras. Bon, il y avait 24 heures accordées. Il fallait ça à ses troupes. Eh bien là, c'est pareil. Il est leur chef, il a décrété qu'il y aurait seulement 3 jours, mais on connaît les détails de ce qui s'est passé. Les hommes suppliciés pour qu'ils disent où est leur trésor, les filles violées sous les yeux de leur mère, etc.
Alors, deux questions, Paul Venn. On ne peut pas parler donc de décadence. L'Empire
est
à son apogée.
En 403, au moment de la double invasion où ça se fracasse, l'Empire est aussi puissant qu'il n'a jamais été.
Mais alors il s'est fracassé sous les coups d'une force exogène.
D'une force exogène qui a envahi les frontières sur deux endroits à la fois. On était perdus, on était paumés.
Donc on peut pas parler de décadence, mais on peut parler d'une chute à ce moment-là.
Un vase qui glisse de la cheminée et qui se fracasse.
C'est ça la métaphore.
Oui, et il n'y a pas à chercher des raisons philosophiques profondes à ce qui est un accident historique.
La chute
il
n'y
a
de
pas
Rome
eu de décadence des esprits, il n'y a pas eu, comme Gibbon le veut, la décomposition des esprits à cause du christianisme. Chrétien, il l'était très extérieurement. Hein.
En pratique, ça ne l'était pas, c'était une couverture.
Voilà un exemple. On veut se débarrasser d'une vieille impératrice. On décrète qu'elle est adultère. Peut-être l'était-elle, moi j'en sais rien. On la voit à l'exil à Jérusalem. En Jérusalem, elle tombe sous la dévotion, elle tombe sous l'adoration d'un prêtre qui est à Jérusalem, qui a des qualités charismatiques et tout. On apprend ça à Constantinople, alors on envoie des assassins tuer le prêtre. Ils tuent le prêtre, mais elle-même tue un des assassins. Quand je parle de l'hystérie du IVe siècle, c'est ça.
Alors... À quand faut-il dater la chute de l'Empire ? Quel est, selon vous, l'événement qui termine cette histoire, Paul Venn ?
On peut dire qu'à partir de 378, c'est-à-dire de la défaite d'Andrinople, militairement, l'Empire d'Occident ne contient plus les barbares. On peut dire qu'à partir de l'hiver 403-404, avec la double invasion en Gaule et sur le Danube, il est complètement dépassé. Et ensuite, au IVe siècle, vit une période tranquille, jusqu'en 478.
Au 5e siècle, donc.
Au 5e siècle, jusqu'en 476 ou 477, comme on voudra. L'Empire est gouverné, en fait, par des chefs germains, qui gouverne derrière le trône d'un empereur romain, l'Empire d'Occident. Cette fiction cesse en 476, quand un chef germain qui en a marre de gouverner par des...
D'avoir un pantin, en somme.
D'avoir un pantin, dit, oh non, on restitue l'unité de l'Empire, il n'y a plus qu'un seul Empire, l'empereur de Constantinople sera aussi l'empereur d'Occident. Bon, personne n'est dupe, mais enfin...
Et c'est à cet instant, donc, qu'il faut faire dater la chute de Rome sous la forme qu'on lui connaît et dont on parle.
Formellement, la chute de Rome, c'est 476. Politiquement, c'est depuis 404. Militairement, c'est depuis 378, la défaite d'Andrinople.
C'est ça. Donc ça s'est fait en trois temps. D'abord une défaite militaire.
Ça s'est fait en trois temps, oui.
D'abord la défaite militaire, puis une défaite politique.
Puis une défaite politique, parce qu'on n'arrive plus à contenir tout ça. Et puis finalement, la fiction même d'un empereur en Occident disparaît, soi-disant pour établir l'unité de l'Empire, en réalité parce que désormais, ce sont les chefs germains qui sont les maîtres un peu partout des territoires d'Occident.
Quand même à vous entendre la façon dont vous traitez l'histoire, Paul Venn, c'est-à-dire effectivement ce refus qui est le vôtre à la fois d'une vérité absolue et en même temps d'un déterminisme total, puisque vous en parlez comme d'un accident de la chute de Rome.
Oui, comme d'un accident de voiture. Si une voiture...
Est-ce que c'est votre méthode qui vous fait voir ça comme un accident, ou est-ce que c'est le fait que ce soit un accident qui a déterminé chez vous la méthode de l'historien qui invite à tenir les événements pour non déterminés, en somme? Qu'est-ce qui est premier, de l'œuf ou de la poule? Non. Est-ce que c'est parce que vous avez travaillé sur Rome et que vous avez constaté que c'était un accident? Ou bien...
Oui, j'ai vu...
À quel moment êtes-vous devenu historien? Est-ce que c'est après avoir travaillé sur Rome, ou est-ce que c'est en amont de votre travail sur Rome que vous êtes arrivé avec les convictions qui sont les vôtres?
Non, cette histoire... Ça me tourmentait depuis longtemps, cette histoire de la prise de Rome en 410. Je me disais, mais enfin, qu'est-ce que c'est cette chose à laquelle on attache une valeur symbolique? Et ensuite, on pouvait lire des flots de choses sur la chute de Rome. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est une décadence fatale due aux chrétiens? Est-ce que c'est une décomposition de l'esprit public? Je suis l'Empire à la fin de la décadence qui regarde passer les grands barbares blancs. Qu'est-ce que c'est que tout ce verbiage? Alors, voyons le détail des événements, parce qu'il y en a marre du verbiage sur les grandes causes.
Et comment le lecteur de Nietzsche que vous êtes, Paul Venn, puisque vous...
Je suis devenu un jour.
Oui. ça arrive à des gens très bien, hein, et ça rend meilleur. Comment le lecteur de Nietzsche que vous êtes, hein, et que vous êtes devenu, et que vous êtes encore, Paul Venn, peut-il être à ce point hostile à l'idée de décadence, justement?
Parce qu'elle n'a pas existé. S'il y en avait une, c'est-à-dire l'idée de décadence...
Historiquement, est-ce que vous pouvez citer une civilisation qui serait décadente, par exemple, contrairement à Rome?
Je sais pas, mais je sais que d'instinct, ce style moralisateur me met en défiance. Vous savez, les gens, ils sont pas contents, à aucune époque, ils ne sont contents du monde où ils vivent. Alors, ils en cherchent une explication. Ils en cherchent une explication à partir de ce qu'ils savent. Ce que les gens savent le mieux, c'est la morale. Et d'ailleurs, dès que quelqu'un fait un discours moral, tout le monde dresse l'oreille. Tout le monde comprend, et puis ça tient chaud au cœur, c'est important. Regardez la plupart des philosophes, les deux tiers, ce sont des moralistes déguisés. Alors, quand on parle de décadence, c'est en réalité l'idée...
C'est le Nietzschéen qui parle, là, pour le coup.
Je ne sais pas, mais si vous me le dites, je le crois.
Non, mais bon, et donc
Alors, donc, si les gens se mettent à dire, oui, bien sûr, c'est la morale, les gens n'avaient plus d'idéal, les gens se laissaient aller...
L'hypothèse déclinologue, en somme, sur Rome.
Il peut y avoir des déclins objectifs, matériels, et tout ça, mais dès qu'on se met à dire « Ah oui, les gens n'ont plus d'idéal, ils sont bouffés par la société de consommation, ils sont bouffés par la société virtuelle, ils sont bouffés par... » Mais non, c'est du verbiage.
C'est une explication trop facile.
Oui, et puis...
Mais est-ce qu'on ne peut pas,
moralisante,
par exemple, prenons un autre empire. Cette fois-ci, je pense que l'appellation d'empire convient mieux. Vous avez contesté, dans une conversation précédente, qu'on puisse parler d'empire à propos de l'empire américain, et je vous l'accorde volontiers.
Oui.
Mais on peut bien parler d'empire à propos de l'Union soviétique. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que la chute de l'Union soviétique est précédée par une période de décadence?
Mais si, et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a dit, à Giscard, qui en est resté bouche bée, c'était un jeune fonctionnaire inconnu dont on a su plus tard qui s'appelait Gorbatchev. Giscard d'Estaing va rendre visite au grand personnage soviétique de l'époque, Brejnev, et dit à Brejnev, fort poliment, « Mais comment se fait-il que l'agriculture soviétique aille si mal ?» Et il entend un jeune homme qui était présent, et qui était Gorbatchev, dire en rigolant « Mais c'est à cause du socialisme ». Giscard en est resté bouche bée comme moi quand j'ai entendu dire « Mais ça fait 30 ans qu'on n'y croyait plus ». Bon, il y a eu une décadence économique. C'est pas du moralisme, c'est une décadence économique.
Mais ce schéma-là, cette décadence économique n'est pas applicable au modèle romain, selon vous.
Il y en a aucune preuve, on les a imaginés. Les gens se sont dit, si l'Empire romain a sombré, il y a dû y avoir une crise économique. Ou ils se sont dit, il y a dû y avoir une chute démographique. Mais c'est complètement imaginaire, on n'en sait rien. Il y a aucune preuve, c'est imaginé à partir d'un postulat.
Qui était celui qu'une société chute quand elle perd un idéal ou quand
qu'une société chute quand elle perd un idéal. Elle a dû perdre un idéal, et alors pour Gibbon, c'était les chrétiens qui avaient mis le ver dans le fruit.
Et alors quel regard portez-vous sur ceux qui disent aujourd'hui, puisque c'est un discours finalement très banal, hein, c'est un discours qu'on présente à chaque fois comme novateur et qui pourtant est d'une banalité confondante puisqu'il revient en particulier en période électorale. Quel sort faites-vous au discours qui veut qu'en somme nous soyons dans une société en perte de valeur, comme on dit? Que signifie ce discours-là pour vous?
Je pense qu'il ne signifie rien. Vous savez, les gens qui vivent, qui travaillent, qui vont au boulot le matin, qui reviennent le soir, ils ne pensent pas aux valeurs. Songez par exemple au problème toujours irrésolu que c'est, pourquoi les Français ont-ils tenu en 1914? Est-ce que c'était l'obéissance au chef? Est-ce que c'était une sorte de patriotisme infus? On n'en sait rien, on n'arrive pas à voir. Mais les gens ont leur vie, leur façon de faire, leur réaction change de jour en jour selon les circonstances. Ces histoires de valeurs, non, je n'y crois guère.
Est-ce que vous reprendriez à votre compte, on va terminer là-dessus, la dernière phrase de l'opium des intellectuels d'Aron qui appelle de ses voeux la venue des sceptiques s'ils doivent éteindre le fanatisme?
Ah ben, par les temps qui courent, ça dépend où. Oui, si vous arrivez à mettre des sceptiques dans les pays musulmans, vous me ferez très plaisir. Bon. Mais à cette époque, Aron, c'était le scepticisme contre le marxisme.
Oui, et ses compagnons de route surtout.
Et
c'était moins contre le marxisme d'ailleurs que contre ses compagnons.
En fait, c'était un faux danger, mais enfin bon. C'était surtout une lutte d'intellectuels contre des intellectuels. Parce que la France, il n'y a qu'à voir ce qu'a été la révolte des intellectuels marxistes et des communistes français avec l'invasion de la Hongrie par les soviétiques. Le Parti communiste a été liquidé.
Merci Paul Venn, merci infiniment. Ainsi s'achève cette semaine trop courte en votre compagnie. Je renvoie l'auditeur à tous vos livres, dont il trouvera les références en ligne sur notre site internet www.franceculture.com, à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous pourrez également réentendre les émissions du mois et télécharger celles de cette semaine. Cette semaine, justement, a été organisée et pensée en partenariat avec les hors-séries du Point, animées par Catherine Goliot, dont je veux saluer le travail. Le numéro sur Rome, notamment, est une réussite, une mine d'or pour les néophytes. Jetez-vous dessus s'il en reste en kiosque, vous ne perdrez pas votre temps. Vous pourrez notamment y retrouver d'ailleurs Paul Venn, mettre un visage sur une voix et lire un entretien décapant sur la Rome antique. La semaine prochaine, dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance, c'est du bonheur que nous parlerons, et pourquoi pas. Le bonheur est-il une névrose, une contrainte, l'envers de la joie, ou bien tout simplement l'art de vivre au quotidien chaque jour comme s'il était le premier? Autant de questions et bien d'autres, selon la formule consacrée, que nous nous poserons toute la semaine. À la technique, c'était Christian Chazalon et Axel Brizard. À la réalisation, François Connac. Assistante, Geneviève Méric, Avril Ventura, Marion Richer. À lundi donc, 19h30, pour de nouveaux chemins de la connaissance. France Culture, il est 20h.